Les matins de France Culture.
Thomas Cluzel, la revue de presse internationale. Et ce matin, à quand le dernier épisode?
Oui, le premier des feuilletons racontés ce matin dans la presse, ainsi que vous venez de l'évoquer, commence à dater puisqu'il remonte à 2005, cette année-là. Claude Guéant, ex-bras droit de Nicolas Sarkozy, est soupçonné d'avoir perçu des versements en provenance de Tripoli, ainsi que semblent le confirmer les notes personnelles d'un homme d'affaires à la réputation sulfureuse, un certain Alexandre Djouri, arrêté à Londres en janvier dernier et dont la toute récente incarcération pourrait l'avoir amené à coopérer avec les juges. En réalité, ces fameuses notes ont été retrouvées à son domicile par la police suisse il y a 3 ans déjà, sauf qu'après de longues années de blocage procédurier, précise Le Temps, ces documents ne sont parvenus que voici quelques semaines sur le bureau des magistrats français. Et voilà donc, selon le journal de Lausanne, ce qui pourrait expliquer la convocation surprise hier de Nicolas Sarkozy par les policiers chargés d'enquêter sur de prétendus financements libyens pour sa campagne présidentielle de 2012. Alors, sans présumer évidemment de la véracité des faits et sans nier bien sûr au principal intéressé le droit à la présomption d'innocence, cette garde à vue d'un ancien chef d'État interroge la presse internationale. Tout d'abord, et ainsi que l'écrit The Guardian, parce qu'il s'agit d'une enquête sur ce qui est potentiellement le plus grand scandale de financement politique en France depuis des décennies. Ensuite, relève La Vanguardia, ce placement en garde à vue d'un ancien président jette une ombre sur l'image internationale de la France. Il serait très grave en effet de constater face à un tribunal qu'un chef d'État français est arrivé au pouvoir avec l'aide d'un dictateur africain lui ayant versé des millions. Enfin, il y a un autre élément tout aussi grave que le financement illégal d'une campagne électorale. Il concerne cette fois-ci la politique étrangère de la France et en fait le renversement de Kadhafi. L'aide qu'aurait apporté le dictateur libyen à Sarkozy, une hypothèse qui devient plus vraisemblable aujourd'hui, conduit à mettre en doute davantage encore les motifs affichés de l'intervention militaire franco-britannique de 2011. À l'époque, rappelle toujours le quotidien espagnol, la décision de lancer cette opération avait fait l'objet de nombreuses réserves et notamment en Italie. Silvio Berlusconi, autre personnage ayant des liens avec Kadhafi, avait prévenu des conséquences funestes que pouvait avoir une telle guerre en vain. Et 7 ans plus tard, on est donc en droit de se demander pourquoi la France et la Grande-Bretagne ont finalement agi de cette manière. Il est évident qu'il y avait des intérêts économiques en jeu, le pétrole au premier chef. Mais aujourd'hui, on commence à se demander si le fait de réduire au silence le dictateur libyen en effaçant les traces de son aide n'aurait pas été une priorité pour Sarkozy qui faisait alors campagne pour sa réélection en 2012. D'où ce titre choisi ce matin par la correspondante du Daily Beast pour résumer le placement en garde à vue hier de Nicolas Sarkozy, la vengeance du fantôme de Kadhafi.
Sans compter que cette affaire vient nous rappeler, Thomas, combien le renversement de Kadhafi, justement, a laissé place au chaos en Libye.
Oui, à ce titre, le Courrier international publie ce matin un article du quotidien de Beyrouth, L'Orient le Jour, sur un homme qui, en novembre 2011, était apparu sur une vidéo, l'air amaigri, déguisé en chamelier, les doigts ensanglantés. Son nom, Saif al-Islam Kadhafi. Un mois à peine après le lynchage à mort de son père, l'héritier du régime venait alors de se faire capturer par une milice armée en Libye. Or, libéré de prison en juin de l'année dernière, voilà que le fils du guide de la révolution signe aujourd'hui son retour dans la vie politique libyenne. Bien qu'il soit toujours condamné à mort par un tribunal à Tripoli, qu'il soit poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité, Saif al-Islam entend être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 30 septembre prochain. Alors ses chances réelles demeurent pour le moins incertaines. Sa candidature dépendra de la future loi électorale qui lui permettra ou non de se présenter. Il n'a d'ailleurs pour l'instant pas fait d'apparition publique. Reste que, même tapis dans l'ombre, le fils Kadhafi continue d'exercer une influence politique auprès de nombreuses tribus.
Autre feuilleton à la une de la presse ce matin, Thomas, l'affrontement entre le président américain et ses ex-maîtresses présumées.
Oui, hier, Karen McDougall, une ancienne playmate qui prétend avoir une liaison avec Donald Trump, a porté plainte devant un tribunal de Los Angeles pour demander d'invalider la clause de confidentialité qu'elle a signée en 2016 pour garder le silence. Elle devrait d'ailleurs être demain l'invitée de l'émission phare de la chaîne CNN 60 Minutes. McDougall dit dans sa plainte avoir reçu 150 000 $ pour son silence et elle précise que la moitié a été reversée à son avocat qui était selon elle en collusion avec le camp Trump. Or, depuis que cette liaison a été révélée dans la presse, elle dit faire l'objet de pressions et menaces pour ne pas parler. Puis surtout, note The New York Times, McDougall devient ainsi la deuxième femme ce mois-ci à porter plainte pour annuler un accord de confidentialité. Son cas fait écho en effet à celui de Stormy Daniels, l'actrice porno qui soutient elle aussi avoir une liaison secrète avec le président. Enfin, ultime bataille judiciaire pour Trump. Trump, relève toujours le quotidien américain. Hier, un juge de Manhattan a autorisé la plainte de Summer Zervos, laquelle accuse le milliardaire de l'avoir harcelé sexuellement après son apparition dans son émission de télé-réalité. C'était en 2007.
Et puis, ultime feuilleton ce matin, celui sur l'utilisation des données personnelles.
Oui, quand The Guardian s'interroge en une, est-il temps de fermer votre compte Facebook? Son confrère The Isom, lui, Mark Zuckerberg, de s'expliquer sur la fuite à grande échelle des données personnelles de 50 millions de ses abonnés en direction d'une société impliquée dans la campagne de Trump. Et puis aux Pays-Bas, là-bas, les Néerlandais doivent se prononcer aujourd'hui pour ou contre une loi de surveillance qui permettrait l'écoute massive de la population. Depuis le début de l'année, cette loi autorise les services secrets à conserver et à exploiter pendant 3 ans les données de la communication des citoyens, et ce, indépendamment de tout soupçon précis. La question de fond, écrit De Volskrant, est donc de savoir ce qui doit primer, la sécurité nationale ou la protection des données. Or, tout le monde, ou presque, en est convaincu, estime le journal, cette loi sur le renseignement doit être renégociée.